Le livre que je vais présenter est La Poétique d'Aristote. Il a été rédigé, on pense, autour de 335 avant Jésus-Christ. Et c'est un ouvrage qui a énormément impacté la vision, surtout occidentale, dans le monde de l'art. Alors d'abord, je vais parler de la définition d'Aristote de l'art. Déjà dans ce traité, l'ouvrage n'est pas seulement descriptif, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas seulement ce qu'est l'art, mais il est surtout prescriptif, c'est-à-dire qu'il expose, je cite, la façon de composer la fable si on veut que la composition poétique soit belle. C'est-à-dire que globalement, Aristote essaye de donner des règles, de définir l'art et de donner des règles à suivre pour que l'art soit beau. Et donc c'est ici que Aristote donne sa célèbre définition de l'art comme imitation, qui va être repris et repris dans le monde de l'art jusqu'à aujourd'hui. Pour lui, les arts, les différents arts se distinguent et se différencient les uns des autres par un caractère essentiel. Ils imitent différemment ou ils imitent des choses différentes. Donc l'art, pour lui, est un domaine d'imitation. Par exemple, il utilise l'exemple de la peinture, qui imite par le dessin, mais aussi le chant par la voix, les danseurs qui imitent le rythme, les mouvements, les actions, etc. Et donc il note qu'il n'existe pas de nom pour lui qui désigne l'art qui imite en général par le langage et qui regroupait à la fois les dialogues de Socrate et les vers de poètes, c'est-à-dire de la philosophie, de la poésie, de la littérature, etc. Donc ça c'est par rapport à l'imitation. Et pour lui aussi surtout, l'imitation peut tout autant améliorer comme il peut conserver ou déprécier l'objet imité. C'est-à-dire que, par exemple, il utilise aussi un autre exemple, celui de la tragédie, qui pour lui représente l'homme supérieur, car la tragédie est souvent formule. Enfin, il se compose grâce à la profondeur et la gravité des sentiments que les acteurs affichent. Et que justement, ça non seulement ça conserve l'objet imité, c'est-à-dire l'homme, mais ça le met en valeur, ça l'améliore. Alors que la comédie, pour lui, elle se moque des défauts de l'homme et elle essaye même de le dépeindre comme s'il était inférieur à ce qu'il est en réalité. Donc, c'est pour ça que l'art. En faisant la même action d'imiter, peut tout à fait améliorer l'objet qui est imité, comme il peut le déprécier. Ensuite, dans l'ouvrage, Aristote se concentre aussi sur l'origine de la poésie et ce qui fait que l'homme aime entendre ou eh bien écrire des poèmes. Et pour lui, ça vient de deux causes. D'abord, l'imitation. Est naturel pour l'homme. C'est quelque chose qui est presque instinctif. Et justement, c'est dans leur habilité à imiter, justement, et ce qui fait qu'il surpasse les animaux. Car qu'il est le seul, en fait, à pouvoir imiter naturellement. Et c'est dans ce processus-là que lui vient, que leur, lui vient les, leur première, les Pardon. C'est dans ce processus-là que lui viennent les premières connaissances qu'il a. Et l'imitation est non seulement une source de connaissances, mais il y prend aussi du plaisir. L'homme prend aussi du plaisir à imiter. Et dans ce paradoxe, justement, il fait une note et il dit que. Il prend en exemple surtout l'image d'un cadavre. Par exemple, l'homme, à la vue d'un cadavre, va être totalement répugné. Alors que à la vue d'un tableau représentant un cadavre, par exemple une scène de guerre où il y a beaucoup de cadavres, l'homme va y prendre plaisir à regarder cette œuvre. Et donc justement, dans l'objet en lui-même, il va être répugné, c'est-à-dire le cadavre, mais dans son imitation, dans le tableau, il va prendre du plaisir. Et ça, c'est... Mais enfin, à côté de ça, il dit que c'est pas seulement pour ça qu'une œuvre est appréciée. Elle peut aussi, une œuvre d'art, c'est-à-dire surtout un tableau, elle peut aussi l'être être appréciée pour ses couleurs, la technique de réalisation, ou ce à quoi elle ressemble. Enfin, ça peut être pour beaucoup de raisons. Et voilà. Et ensuite, il revient à l'image du théâtre et de la comédie. Et c'est lui qui va justement définir la tragédie comme et employer pour la première fois le mot de catharsis. Donc en effet, pour lui, je cite, elle suscite la pitié et la crainte, elle opère la purgation propre à pareille émotion. Donc pour lui, le spectacle n'est qu'accessoire dans l'art, le grandiose tout ça, l'homme n'a pas forcément besoin de voir ça. Car, je cite aussi, le pouvoir de la tragédie subsiste même sans concours ni acteur. C'est-à-dire que l'homme n'a pas forcément besoin de voir le spectacle, le grandiose, ni l'histoire, mais c'est surtout les émotions qui sont transmises et qui vont pouvoir lui permettre de se purger. Et c'est dans ça qu'il va trouver la beauté ou la définition même de l'art. Et justement, par rapport à la beauté, Aristote va se pencher sur cette notion de beauté, et surtout sur le fait du pourquoi certains hommes vont trouver quelque chose de beau et pas un autre, une chose belle et pas une autre. Et ça va se définir pour lui par deux caractères essentiels, c'est l'étendue et l'ordre. Par exemple, il va dire, un bel animal ne peut être ni extrêmement petit, ni extrêmement grand. Et que pour qu'il soit beau, il faut donc qu'il corresponde à ces critères. Il va appliquer ce principe dans l'art et va prendre l'exemple de la fable pour l'appliquer. Donc pour lui, une fable doit, pour être appréciée par l'homme, avoir une certaine longueur. Mais si elle est trop longue, la mémoire ne pourra pas la retenir. Elle perd sa cohérence et généralement elle finit par ennuyer le spectateur, celui qui l'écoute, il va finir par se lasser d'écouter cette fable. C'est pour ça que la bonne longueur va être celle pour lui qui, je cite, une suite qui va permettre une suite d'événements qui se succèdent, suivant la vraisemblance ou la nécessité de faire passer le héros de l'infortune au bonheur ou du bonheur à l'infortune. Et il va donc appeler cela l'unité d'action. Et pour qu'une pièce soit réussie, il faut justement trouver l'unité d'action, c'est-à-dire l'équilibre entre de la longueur. Et c'est une pièce où on ne peut retrancher une partie sans complètement chambouler le tout. Et ensuite, dernièrement, il va aussi faire la distinction entre le poète et l'historien. Et il va dire que en fait, ce qui va différencier le poète de l'historien, c'est que le poète va. Non, l'historien va raconter les choses telles qu'elles sont arrivées avant. Il va se refléter sur le passé. Alors que le poète va raconter les choses telles qu'elles pourraient arriver. Et donc il va se concentrer sur le futur. Et pour lui, la distinction entre le poète et l'historien, ce n'est pas due au fait que l'un, c'est-à-dire le poète, s'exprime en vers, alors que l'historien s'exprime en prose. Pour lui, cela n'a pas d'importance. Lui, c'est vraiment, il va se concentrer sur le fait que, c'est-à-dire le temps, sur le fait que l'historien va se concentrer sur le passé et le poète sur le futur. Pour terminer, je vais vous donner mon avis personnel sur la poétique d'Aristote. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai choisi le livre? Parce que c'est un classique. Aristote est un écrivain fondateur de la philosophie. Et justement, le fait que ce livre impacte toujours aujourd'hui notre culture et le monde artistique, est un élément fondateur de ben justement de la culture moderne et de notre philosophie. Et justement, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'il fixe en quelque sorte enfin des règles et des lois pour la définition de la beauté, alors que toute notre vie, on se dit que la beauté est quelque chose de subjectif. Et même dans notre vie quotidienne, on se rend compte que la beauté est quelque chose de subjectif. Et pourtant, lui, il arrive à édifier des conditions à la beauté, des lois, et définit en soi ce qui rend quelque chose de beau. Et c'est quelque chose d'assez unique, parce que justement, c'est... Avant de lire le livre, je n'imaginais pas que ça pourrait être possible de vraiment définir la beauté. Alors que lui, il arrive à expliquer avec des vrais arguments, c'est quelque chose d'extrêmement bien construit, la manière dont la beauté peut être définie.